Carrefour.
Quand vous me dites « Carrefour baisse ses prix !»
Eh oui, et de 10% en moyenne parmi vos produits préférés d'hygiène et d'entretien. Comme la boîte de 30 protèges slip larges Carrefour Soft qui passe de 1,36€ à 99 centimes, soit 27% moins cher. Et c'est chez Carrefour, Carrefour Market et leur drive et sur carrefour.fr.
Carrefour, on a tous droit au meilleur. Prix baissé à compter du 1er avril 2024 par rapport au prix permanent des produits. Détail et liste des produits concernés sur carrefour.fr.
Vous écoutez
RMC. RMC, la boîte à souvenirs.
Gévry Zeman.
Bonjour à tous, je m'appelle Gévry Zeman. J'ai 38 ans, j'ai été triple championne du monde de judo, quintuple championne d'Europe et médaillée de bronze aux Jeux Olympiques de Londres. J'ai une histoire très particulière avec les JO. Et ensemble, nous allons ouvrir ma boîte à souvenirs.
Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de la boîte à souvenirs, votre émission intimiste sur RMC avec les membres de la Dream Team. Et aujourd'hui, nous sommes avec notre judokate, Gévry Zeman. Salut Gévry.
Salut JC, comment ça va?
Bah écoute, ça va très bien, toi aussi.
Moi aussi, impeccable.
Alors durant une heure, nous allons ouvrir ensemble ta boîte à souvenirs, se rappeler tes grands moments, tes grandes victoires, tes moments difficiles aussi avec notamment ces cicatrices lors des Jeux Olympiques. Ton boulot est très simple. Face à toi, une boîte, plusieurs papiers glissés à l'intérieur. Et au fil de notre discussion, tu vas pouvoir les tirer au sort. Dessus, un mot, une date, un événement, un moment que tu vas bien sûr nous raconter. Au-delà du comment ça va, au moment d'ouvrir ta boîte à souvenirs, tu te sens comment, Gévry Zeman?
J'ai le cœur qui palpite. Non, je t'entends.
T'as connu plus de pression quand même, normalement.
Bien sûr, tout roule, tout roule.
Ok, alors on débute.
J'ai hâte.
Avec ton premier papier.
Yaoundé.
Yaoundé, on est en 1984, tu as 2 ans, ton papa est militaire au Cameroun, à Yaoundé, la capitale, et le 6 avril, il va devoir résister à un coup d'État, et quelque part, ça va changer ta destinée, Gévrise.
Oui, c'est ça. Alors, j'étais très petite, donc moi, j'ai appris l'histoire bien plus tard, et suite... à ce coup d'État, ou en tout cas à ce qui est arrivé ce 6 avril. En fait, donc mon père était. C'était lui qui gardait un petit peu, j'allais dire, l'endroit où il y avait le stock d'armes. Et ce stock d'armes a été attaqué. Et donc mon papa a riposté. Il a réussi à garder correctement, à faire correctement son travail. Mais donc, du coup, il a été blessé. Et donc, après, amputé de la jambe. Et ensuite, il a été, j'allais dire, muté en France à l'ambassade du Cameroun en France.
C'est ça. C'est pour ça que je parlais de changer ta destinée, parce que tu arrives donc très tôt en France. On est en 1984. Je le disais, tu as 2 ans. Tu vas grandir à Neuilly-Plaisance dans le 93. Et tu vas arriver quand même très tard au judo. Tu vas faire d'autres sports, tu vas faire de la danse, mais le judo, ça arrive très 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 tard dans ta carrière.
Le judo arrive effectivement assez tard, puisque je découvre vraiment l'activité judo. J'ai été au collège, donc j'avais 12 ans, et c'est par l'intermédiaire de mon professeur de PS, Jackie Bicheux, qui était aussi professeur de judo. Et donc du coup, j'ai pu découvrir avec mes petits camarades et avec ma petite sœur, celle qui me suit juste derrière, Marie-Josée, l'activité judo.
C'est okay. Top. Mais vous êtes nombreux dans la famille, hein. Vous êtes 6 frères et sœurs. Et c'est vrai que bah, tu découvres ce sport, donc tu le disais avec ton prof de PES. Les parents, ils sont contents que tu fasses du judo?
Les parents sont contents que je fasse du judo, que je fasse du sport, que je m'amuse. Donc voilà. Et en plus, j'ai commencé bien à me calmer, parce que j'étais une fille qui était petite, j'étais vraiment très turbulente. Donc là, du coup, ils sont bien ravis.
Comment s'appelle ta maman?
Christine.
Christine. Elle était d'accord, Christine, pour le judo? Ah, je suis vraiment pas sûr. On va l'écouter.
À notre grande surprise, à l'âge de 13 ans, il nous apporte le judo sur la place. J'ai dit à ma fille tout de suite que moi, j'aime pas le sport. Mon mari, sûrement, c'était le football pour les garçons, mais les filles, le judo, ça nous disait rien. On était contre ça parce que le judo n'a pas de débouchés. Le sport n'a pas de débouchés.
Je me souviens pas qu'elle était si virulente, en fait. Oui, enfin, ils étaient contents que je fasse une activité. Si ça avait pu être autre chose, ça aurait été mieux, bien sûr. Mais effectivement, et d'ailleurs, il y a une anecdote, parce que un jour, je suis rentrée avec l'oreille en sang. Et là, ils voulaient plus du tout, mais alors plus du tout, que je fasse du judo de ma vie.
Ouais, forcément, c'est un sport de combat, de contact.
Tout à fait.
Et pour les parents, ça fait un petit peu peur. Alors, ta maman parle de déboucher dans le sport. À ce moment-là, quand tu as 13 ans, tu n'as pas pour ambition. Ça pourrait arriver, mais ce n'est pas le cas. Tu n'as pas pour ambition d'être championne. Toi, tu aimes le judo parce que c'est familial. C'est ça? Vous vous retrouvez tous ensemble avec les entraîneurs, avec les copains et tu sens une autre famille.
Exactement, et puis ça fait du bien, et surtout c'est tout cet aspect, j'allais dire, bon enfant, de convivialité après les compétitions. On se retrouvait toujours chez mon professeur de judo et chez sa femme Catherine. On passait des bons moments ensemble et de franches rigolades. Ça c'était top, comme à la maison en fait.
Alors ta sœur, tu le disais, Marie-Josée, faisait également du judo. Elle se rappelle de ce moment où les parents n'étaient pas forcément d'accord.
Ma mère a trois filles et elle tient beaucoup et elle tient aussi à ce qu'elle reste des filles. Clairement, pour elle, c'est ça. Le sport, oui, mais alors le judo, c'était trop violent. C'était trop masculin. Physiquement, elle avait peur pour nous. Hein. J'en ai fait aussi un petit peu. Et elle craignait vraiment pour notre santé, pour notre féminité. Et pour elle, c'était pas forcément favorable. Mais elle a bien compris assez rapidement, avec mon père aussi, ils ont bien compris que... qu'elle aimait bien ça, Gévrise en tout cas, et qu'on ne pouvait pas lui dire non, tout simplement.
Et malheureusement, tu vas faire des résultats en plus pour tes parents, mais ça, on va en parler dans quelques instants. Forte tête un peu, Gévrise, à cet âge-là, préadolescence, adolescence, ou non, pas forcément?
Et je pense que j'étais déjà forte tête, et je le montrais d'une certaine façon, pas forcément de manière virulente, comme j'avais pu le faire quand j'étais petite, parce qu'après, voilà, la puberté a fait en sorte que je me calme un petit peu. Mais je trouvais toujours le moyen de m'exprimer et de montrer mon point de vue. Et d'ailleurs, mon papa disait souvent « t'as trop l'air belliqueux
». C'est bon ça. Et ça veut tout dire.
Ça veut tout dire. Il connaissait très bien sa fille.
Tu fais des résultats en cadet, mais tu rêves pas encore d'être championne. Et puis à un moment donné, tu vas devenir vice-championne de France en junior et ça va t'ouvrir les portes de l'INSEP. Tu as 18 ans, c'est quand même assez tard pour intégrer l'INSEP. On est en 2000. C'est dur là d'intégrer ce genre d'institution sportive parce que là on entre dans le monde professionnel.
Oui, et la difficulté résidait dans le fait que j'avais jamais connu de sport-études. Véritablement, moi j'étais licenciée dans mon club, je pouvais faire au maximum 4 entraînements dans la semaine. Là, je faisais 2 entraînements par jour, tous les jours. C'était un petit peu, c'était très très intense, avec une charge de travail énorme. Et qui plus est, j'étais déjà à la fac avec en licence de droit, deuxième année. Et donc voilà, j'avais aussi une charge de travail à la faculté qui était énorme. Et en plus, qui était à 1h30 à cette époque-là de l'INSEP. Donc j'avais beaucoup de choses à gérer.
Ouais, on va te conseiller même un truc quand tu arrives à l'INSEP, hein, parce que tu prends des coups, on va te conseiller d'acheter un petit peu de matériel, c'est ça?
Effectivement, on va me conseiller d'acheter des protèges tibia, parce que les filles ne faisaient pas de cadeaux, et en plus, comme je rendais les coups, fallait vraiment que je me protège les jambes.
La teigne, pas seulement belliqueuse. Gévrise Eman, Fabien Canu, le DTN, se souvient de ton arrivée et quel genre de personnage, combattante, sportive tu étais.
Le souvenir que j'ai de Gévrise, c'est un peu ça, quoi. Ça, c'est construite. C'est une fille très très intelligente et qui avait un certain potentiel, mais qui a beaucoup beaucoup travaillé et qui a su à chaque fois combler ses points faibles et vraiment progresser. C'était pas de mémoire pour moi un Teddy Riner qui, quand il est arrivé à 15-16 ans, on avait compris qu'on avait de leur embarque, quoi. Elle fait partie de ces gens, mais c'est souvent le cas de beaucoup de champions. Hein. Elle s'est vraiment construite étape par étape, et c'est comme ça qu'elle a obtenu un super palmarès.
Et tu as un des palmarès les plus riches du judo, on va en parler dans cette émission. Mais quand tu arrives, t'es la petite nouvelle, t'es pas la star annoncée.
Non, et puis ça me convient très bien d'ailleurs. Personne ne me connaît vraiment et je me construis, comme l'a dit Fabien, au fur et à mesure sur le terrain et ça va être ma marque de fabrique.
Et 3 ans plus tard, tu vas devenir championne de France et là c'est pour toi le déclic pour aller plus loin et conquérir peut-être le monde. Un nouveau papier avec Gévrise Eman dans sa boîte à souvenirs.
La sparring partner,
on est en quelle année d'après toi?
Je pense que nous sommes en 2004.
Jeux Olympiques d'Athènes. Tes premiers Jeux Olympiques, enfin, pas tout à fait, parce que tu ne vas pas participer à ces Jeux Olympiques, tu vas être donc sparring partner, tu accompagnes les autres sportives françaises comme Lucie Descosses. Ta catégorie n'est pas qualifiée, donc tu es sparring partner, Mais c'est quand même un vrai tournant, cette expérience. Ce vrai amour des Jeux, il va naître là-bas à Athènes.
Ah oui, complètement. Il naît à Athènes. En fait, j'étais subjuguée par l'engagement des différents athlètes. J'étais subjuguée par la compétition judo. J'étais subjuguée aussi par l'ambiance et qu'il y avait aussi au sein du groupe France judo à cette période-là. Et c'est vraiment à ce moment-là que je me suis dit, ouais, moi aussi j'ai envie d'y être. Moi aussi j'ai envie de faire partie de l'équipe olympique, faire partie de la famille olympique et décrocher les étoiles de l'Olympe.
Décrocher les étoiles. Lucie Descosses, tu échauffes, entraînes, je ne sais pas comment on dit. En tout cas, tu es une sparring partner aussi pour Lucie Descosses. Elle se souvient de ce moment.
Les entraîneurs choisissent des sparring. Il y a des profils un peu de filles. On sait que, entre guillemets, qu'elles feront peut-être pas les jeux, mais elles sont, entre guillemets, dévouées et qu'elles vont s'appliquer à jouer leur rôle. Et puis, il y a une partenaire aussi où, des fois, on dit non, elle vient parce que on veut lui montrer les JO, on veut qu'elle ait cette première expérience parce qu'on pense que elle fera bientôt partie de l'aventure. Et Gévrise, c'est pour ça qu'elle avait été mise dans le bain direct en 2004.
Oui, toi, tu fais partie plutôt de la deuxième catégorie. C'est pas déshonorant des sparring partners, c'est une promesse pour plus tard.
Oui, et c'est comme ça que je l'ai pris. Moi, quand on m'a dit que j'étais sparring partner, j'étais super contente. Franchement, j'étais super contente. J'avais la banane. Je me disais, ah oui, je vais pouvoir aussi goûter à l'aventure autrement. Et je pars aussi du principe que pour pouvoir atteindre les étoiles, il faut aussi passer, voilà, faut avoir fait du terrain, faut aussi passer par les sous-couches, entre guillemets. Et c'est pas du tout péjoratif pour moi.
À partir de ce moment-là, toi aussi, tu veux devenir championne olympique. Est-ce que tu sais pour tes parents, pour ta maman, quel a été, eux, leur déclic pour Gévrise, la grande championne?
Franchement, non, j'en ai aucune idée.
2003, vraiment. Un an avant ces Jeux Olympiques d'Athènes, le tournoi de Paris, tu montes sur le podium. Et là, ta maman s'en souvient très bien.
Elle a fait troisième à Bercy. On était impressionnés parce qu'il y avait une foule de gens qui sont venus vers nous féliciter. Et je me souviens qu'il y avait quelqu'un qui m'a dit « Votre fille deviendra une championne de judo ». Et après, quand on est sorti du stade pour aller rentrer à la maison, pour aller au parking par la voiture, tout le monde est venu vers nous, comme elle était avec nous, quoi. Tout le monde félicitait, il a eu des fleurs, il a eu ceci, des félicitations de tout le monde. Et le lendemain, mon cousin est venu, qui est professeur de sport aussi. Il est venu nous convaincre, mon mari et moi. Il nous dit, laissez Gévrise faire ce sport-là.
Elle n'était pas encore sûre dans la famille, hein, qu'il fallait te laisser faire du judo à ce point.
Non, et ça, je le découvre. En fait, je ne savais pas que le cousin de maman était venu, j'allais dire, un petit peu faire le plaidoyer pour moi, en fait, finalement. Et je découvre aussi, enfin, je savais qu'ils étaient impressionnés par tout l'engouement qui était suscité, mais je ne savais pas que c'était là qu'ils avaient vraiment compris.
Vous êtes sur RMC, la boîte à souvenirs avec Gévrise Zeman. Un nouveau papier à tirer pour toi dans cette boîte à souvenirs.
Ça ne peut pas se finir comme ça.
Alors là, on va faire un petit saut de plus. Ça ne peut pas se finir comme ça. Qui dit ça?
Alors, je pense que je me le suis déjà dit à plusieurs reprises.
Mais ce n'est pas toi qui le dis.
Mais je ne sais pas.
C'est Céline Géraud, commentatrice aux Jeux Olympiques 2016 à Rio.
Ah, oui.
On le dit clairement aux auditeurs, ce sont tes derniers Jeux Olympiques, on parlera des autres dans quelques instants. Les derniers Jeux Olympiques et Céline Géraud au commentaire avec ta copine Lucie Descosses, premier tour des Jeux Olympiques. Et voilà ce qui se passe.
Ah ouais, elle est coincée, la Britannique, elle y va, seconde. Ah,
oh non,
elle sort, attention, attention, très forte,
oh non,
sort, pas de
oh
faute.
Non, non,
Gévrise, pas de faute.
Non, 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 non,
oh non,
non,
pas ça, l'erreur fatale.
Oh non.
C'est pas possible.
Oh non, 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 allez, sort, sort, sort.
Faut sortir là, de là. C'est impossible,
allez.
Ça peut pas se finir comme ça, Gévrise. C'est pas possible.
Oh non, non.
Ça peut pas se finir comme
non,
ça.
Oh non.
Et c'est elle qui se fait prendre à son propre
non.
jeu. Incroyable scénario.
Mais non.
Lucie, qu'est-ce qui s'est passé?
Mais non.
Complètement assommé, Gévrise. Complètement assommé.
Ça te fait quoi de réécouter ça?
Beaucoup d'émotions. J'ai aussi l'impression que Lucie, elle est encore plus assommée que moi. À ce moment-là, c'était oui le premier combat aux Jeux de Rio sur la Britannique Sally Conway, que j'avais rencontrée à plusieurs reprises, que j'avais aussi déjà battue, et notamment au sol. je le précise parce que j'ai entendu des choses derrière, oui, que j'étais pas forte au sol, etc. Ça n'avait rien à voir. Je l'avais déjà battu au sol sur différentes immobilisations. Et effectivement, je menais très bien. Et ensuite, j'ai fait un enchaînement en liaison de boussole où je menais. Je me suis fait retourner. Mes appuis n'étaient pas bien fixés. Et c'est terrible. Et du coup, je finis par perdre alors qu'il reste que 20 secondes au temps. Et c'est vrai que on le sent dans les commentaires de Lucie et Céline, c'est terrible, c'est douloureux, et pour moi c'était aussi très douloureux parce que j'ai pas du tout compris à ce moment-là ce qui se passait, et malgré le fait j'ai essayé de sortir, de mettre toute mon énergie pour pouvoir sortir, et finalement ça a pas suffi quoi.
Ce sont tes derniers Jeux Olympiques, ouais. Tu veux absolument être championne olympique et ça se termine comme ça, ça ne peut pas se finir comme ça, dit Céline Géraud. Mais que dit Jevry Zeman quand elle sort du tatami? Tu t'en souviens?
Oui, je m'en souviens.
Avant que tu dévoiles tout, on va réécouter juste la réaction de Jevry Zeman. On sent encore le chaos.
Oui, avec Jevry Zeman. Jevry, c'était pas prévu comme ça. Est-ce que vous avez compris ce qui s'était passé?
Non, j'ai pas compris. Là, je suis justement en train de chercher des réponses. Sur la phase de Newaza là, et au moment où je me fais retourner, je comprends pas du tout. Et quand j'ai entendu le gong, je me suis juste dit que c'est pas possible en fait.
Vous avez déjà été médaillé de bronze au jeu, vous visiez le titre et rien d'autre. Quel est votre sentiment, Jevry, là maintenant?
Là tout de suite je suis dégoûté tout simplement, j'ai pas de mots. Tout ce travail pour rien.
Tout ce travail pour rien.
Ouais, tout ce travail pour rien, parce que ça a été long. Mon histoire avec les Jeux Olympiques est très particulière. J'ai participé à 3 Olympiades. À chaque fois, je me suis battue contre moi-même, en fait, tout le temps. Et que ça se termine comme ça, c'est vrai que pour moi, c'était terrible. Et ce que je me suis dit à ce moment-là, après, c'est peut-être pas retranscrit dans l'interview, c'est que je ne serai jamais championne olympique. En fait, c'est plus ça qui m'a fait mal que le fait de perdre, parce que bon, perdre, ça arrive, hein. En tant qu'athlète de très haut niveau, on gagne, mais on perd aussi. Mais par contre, effectivement, pour l'ambition que je m'étais fixée et par rapport à la carrière que j'avais et que je souhaitais terminer correctement, c'était terrible pour moi de dire que je ne serais jamais champion olympique.
Lucie Descosses au commentaire, même encore aujourd'hui, ça fait donc 5 ans, même encore aujourd'hui, elle l'a en travers de la gorge.
Quand elle retourne la fille et qu'elle se fait retourner, tu te dis non, c'est un film, c'est pas possible. C'est pas possible, ça t'arrive ce jour-là, quoi. C'était triste parce que c'était pas juste et que une fille comme ça, tu te dis non, elle mérite tellement que t'avais envie que ça arrive, quoi.
Tu es triple championne du monde, quintuple championne d'Europe. C'est pas juste ce qui t'arrive, là.
Oui, si, c'est injuste, effectivement, c'est injuste. Mais après, j'ai envie de dire aussi que c'est le sport, malheureusement. Et qu'à ce moment-là... l'autre, Sally, j'ai pas plus forte parce que c'est pas le terme, mais en tout cas, elle aussi, elle a tout donné sur ce combat, et pour me retourner à un moment où j'étais pas bien positionnée, elle a juste saisi sa chance. Et malheureusement pour moi, à ce moment-là, c'est aussi la beauté du sport, mais qui a pas tourné à mon avantage. J'aurais préféré que ça tourne à mon avantage.
C'est le pire moment pour quelqu'un de ta famille, ce passage-là, en 2016.
Je crois que c'est ma petite sœur.
Marie-José.
Ouais,
exactement. Elle était présente.
Oui, elle était présente.
On l'écoute. Ouais.
Le pire moment, c'était au jeu de Rio. Parce que le pire moment pour elle, dans le sens où je me suis dit, mince. Elle était partie pour obtenir un titre. Elle était partie pour gagner. Et ce combat-là, elle le perd. Et j'avais peur qu'elle s'écroule à ce moment-là, après ça. Et elle a mis du temps, en tout cas, à réaliser ce qui venait de se passer. Quelques minutes, hein, et bon, en sortant, par contre, je lui ai dit, écoute, ça y est, c'est bon. T'as fait ce que t'avais à faire dans ce sport-là, et t'es allé au bout de tes objectifs, en tout cas de ces Jeux de Rio. Respire, tout va bien, quoi. Et après, la vie a continué, c'était parfait.
Ça a pris du temps de faire ce travail, peur qu'elle s'écroule?
Oui, ça a pris du temps. Ce qui m'a permis de tenir, c'est déjà de faire l'analyse de tout ce qui s'est passé, c'est-à-dire que voilà, aussi terrible que ça pouvait être, au final, j'avais pas à rougir en vérité, et que malgré le fait que voilà que ce premier tour à Rio ne soit pas passé comme je l'aurais souhaité, et c'est surtout la configuration du match qui, lorsque moi j'ai revu le match, je l'ai pas revu tout de suite parce que ça me faisait trop mal, j'ai revu le match quelques mois plus tard, Et je me suis dit, mais et c'est ce que dit Lucie, mais c'est pas possible, c'est un film. Et c'est exactement la réflexion aussi que je me suis dit, mais c'est pas possible, c'est un film. Mais après, au final, c'est comme ça. Et puis après, il faut l'accepter, quoi. Et j'avais tellement beaucoup donné, tout donné. Et ce qui m'a réconforté, c'est que j'ai pas triché. Tout au long de ma carrière, j'ai pas triché. Je suis allé au bout de moi-même, j'ai tout donné. Et au final, j'ai vraiment pas rougir.
Et heureusement que la famille était là et te suit dans les combats. Il y a ta maman, il y a donc ta petite sœur, il y a aussi ton petit frère qui est venu à de nombreuses reprises. Forcément, ensuite, tu passes la journée avec ta famille et notamment ta maman qui s'en souvient.
Notre fille, le jour-là, elle a eu une très malchance parce que c'est elle qui menait le combat et elle a raté. On a eu mal, mais il fallait se retenir pour consoler notre fille. Notre regard, moi, je me suis dit qu'elle gagne ou qu'elle perd. C'est toujours elle-même. Elle est toujours à elle-même. Quand elle a perdu, je dis, ne pleure pas, pleure, parce que bon, ça fait mal. Mais il ne faut pas tenir ça à cœur, parce qu'elle aussi, la fille là, j'ai dit à ma fille, elle ne va pas aller loin. Elle n'aura pas de médaille là.
C'est encourageant. Heureusement que tu ne l'as pas dit en 2016.
Non, mais puis derrière, pour la petite histoire, Sally Conway a fait troisième après sur cette compétition. Donc elle a été très, très forte. Elle a été très, très forte. Oui, en fait, là, maman, ce qu'elle dit, c'est vrai, c'est la famille qui m'a permis de rester debout, et ça a toujours été le cas de toute façon.
On te sent ému. C'est quoi ? C'est 2016, de savoir que ta famille a toujours été là, justement, pour te soutenir dans... Il y a eu des très bons moments. Là, on parle des mauvais, mais il y a eu des très bons moments aussi.
Oui, il y a eu des très bons moments. C'est pas seulement en 2016, en fait, c'est l'émotion, c'est aussi sur tout le parcours, c'est-à-dire que la famille est toujours présente. Et quand ma maman dit qu'on sera toujours là, quoi que tu fasses, en fait, c'est ça dont j'avais aussi besoin pour avancer tout au long de ma carrière. C'est-à-dire de savoir que peu importe ce qui va se passer sur tatami, eh ben, que mes proches seront toujours là.
On va écouter, parce qu'on sent forcément quelques cicatrices dans un parcours, mais quel champion n'en a pas eu. Cathy Fleury, ton entraîneur, parce que pour elle, tout ça... Quelle championne, Gévrise ?
Je crois que tous les athlètes ont des cicatrices. Tous les athlètes, vraiment. Mais je trouve qu'elle a une manière formidable de le gérer. Je crois que les années passent. Elle a juste à être extrêmement, extrêmement fière de son parcours. Bien entendu, c'est un parcours admirable.
La boîte à souvenirs avec Gévry Zeman, ça continue sur RMC dans quelques instants. À tout de suite.
RMC,
la boîte à souvenirs. RMC, la boîte à souvenirs.
Gévry Zeman.
De retour sur RMC pour la boîte à souvenirs avec Gévry Zeman, notre championne de judo. Gévry, tu peux tirer un nouveau papier.
Ok.
Qu'est-ce qu'il y a ?
Régime.
Bon, je pense que c'est clair. On va parler de régime, donc. Après les Jeux Olympiques 2008, d'ailleurs, on en parlera dans cette émission de ces Jeux Olympiques 2008, ta première Olympiade, tu vas connaître une petite dépression, parce que ces Jeux Olympiques 2008, ça va mal se passer, et ça va être dur pour toi à ce moment-là.
Ça va être terrible, effectivement. En 2008, je suis numéro 1 mondial, championne du monde, double championne d'Europe en titre. Et donc, j'arrive aux Jeux. Et pour moi, les Jeux, c'était, si tu veux, la finalité voilà, de mon parcours. La boucle était bouclée. Et j'arrive aux Jeux, au premier tour, et je tombe contre une Espagnole qui avait fait de belles choses tout au long de la saison. Et je perds. Et ça a vraiment été terrible. C'était catastrophique. Catastrophique pour moi.
Catastrophique ces Jeux Olympiques de Pékin en 2008 parce que tu sors au premier tour comme en 2016, on vient de l'entendre, tu es l'une des favorites, tu le disais, tu étais championne du monde. T'as réussi à mettre le doigt sur le problème. Pourquoi tu avais certainement perdu ce jour-là au premier tour ?
Oui, j'ai réussi à mettre le doigt sur le problème, hormis l'ampleur de l'événement que sont les Jeux Olympiques. J'ai eu du mal à gérer certains aspects, notamment celui-là, mais j'ai aussi du mal à me livrer, c'est-à-dire à dire les choses. C'est vrai que j'ai tendance à garder les choses pour moi, et là ça a été le cas, c'est-à-dire que je n'ai pas osé à un moment donné dire que j'étais pas bien, et c'était pas forcément le jour de la compète, c'était quelques jours avant en fait.
La veille tu étais stressée, paraît-il.
La veille j'étais stressée.
Et tu l'as pas dit.
Et je l'ai pas dit.
Et ça, pour toi, ça a pêché, ça a joué sur ce premier tour au JPK.
Je suis convaincu que oui, que ça a joué. Même si le jour de ma compétition olympique, je l'ai pas ressenti. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des traces, il y a des choses qui restent. Et je pense que ça, c'est resté ce jour-là. Et je m'en suis voulu après de pas avoir osé dire les choses, m'exprimer.
C'est la première blessure dans ton parcours sans tâche, championne de France, double championne d'Europe, championne du monde, on l'a dit, quand tu arrives à Pékin en 2008. Tu vas donc connaître une petite dépression et tu vas quasiment plus arriver à passer un premier tour. Les compétitions deviennent très difficiles à partir de Pékin.
Ça devient très difficile à manœuvrer pour moi et c'est plus psychologique qu'autre chose hein, parce que bon, physiquement, je vais très bien, il n'y a aucun souci. Mais c'est mentalement, j'ai du mal à mettre un pied devant l'autre. Alors, soit je fais des premiers tours, et puis en plus, je m'en moque, alors qu'avant, voilà, quand je perdais, ça me faisait quelque chose. Ou soit je gagne, mais pour moi, la victoire n'a plus de saveur. Je monte sur le podium, je pleure. Je descends du podium, je pleure. J'arrive sur le pré-combat, je pleure. Enfin, je pleure tout le temps.
Ton entraîneur à Levallois, Christian Chaumont, te propose alors quelque chose. Il propose quoi ?
Il me propose de descendre de catégorie de poids.
Tu es en moins de 70 kilos et donc il te propose d'aller en moins de 63 kilos.
C'est ça.
Tu refuses au début.
Je dis non, t'es malade. Je dis t'es malade, j'ai jamais fait de régime de ma vie, pourquoi tu veux que je fasse des régimes ? Je dis non, je reste dans ma caté, je continue et puis je vais régler ce problème-là. Et j'entreprends d'ailleurs, après Pékin, j'entreprends une transformation profonde. Je vais voir une spécialiste, une psychologue, une préparatrice mentale pour m'accompagner dans le chemin que j'ai pris parce que j'ai décidé de prendre les choses à bras le corps au final.
Et finalement, tu vas accepter sa proposition sous condition quand même.
Ouais.
C'était quoi les conditions ?
C'était grosses conditions. Sous condition, c'était un que ça puisse être possible physiquement. Donc je voulais aller rencontrer des spécialistes et que des tests puissent être effectués, réalisés pour qu'ils me disent si c'était OK ou pas physiquement, parce que si c'était pas possible physiquement, ben, il en était hors de question. Donc ça, c'était la condition. Et puis de faire les choses petit à petit. Et avec le travail que je faisais sur moi à ce moment-là, je me suis rendu compte aussi que j'avais besoin d'un défi, en fait. D'un nouveau défi pour avancer, pour mettre un pied devant l'autre.
Un travail forcément psychologique, un travail physique sur ton corps. Le DTN Fabien Canu se souvient évidemment de cette transformation qui est assez rarissime dans la carrière d'un sportif et qui est surtout extrêmement dur. Fabien Canu.
Ce qui la caractérise et ce qui est rarement soulevé, c'est d'être champion du monde dans deux catégories de poids, mais en redescendant de catégorie de poids, ce qui est très rare, très difficile. On n'imagine pas le boulot qu'elle a pu faire. Et elle a même changé sa façon de combattre. C'est-à-dire que, au niveau technique, il a fallu qu'elle s'adapte. Mais pour moi, là, chapeau, d'être championne du monde dans une catégorie inférieure en ayant perdu du poids, mais c'est extrêmement rare.
Car on est en 2009, tu as été championne du monde en 2007, on l'a bien compris, en moins de 70 kilos, et tu seras championne du monde, ça validera aussi en moins de 63 kilos. En 2011, ça validera évidemment ce choix. Il y a un avantage quand même à faire ce choix de moins de 63 kilos. C'est pas sur la nourriture, on est bien d'accord. Mais il y a un avantage, c'est qu'au moins maintenant les filles font ta taille.
Merci de me le rappeler, je sais.
Non mais avant tu affrontes des girafes quoi.
Effectivement, il y a aussi des girafes en 63 kilos mais oui, les filles font à peu près ma taille, en tout cas pas très loin. Mais n'empêche que l'adaptation n'a pas été si facile que ça. Quand bien même ma première compétition 63, je fais 3e, je me souviens c'était au Grand Slam de Rio. Mais ensuite derrière j'ai fait un an, alors non, un peu moins d'un an, mais j'ai dû faire 8 mois où c'était compliqué justement parce qu'il y a eu toute cette adaptation qu'il fallait faire. Alors je passais un tour, deux tours, ok, mais ça allait pas plus loin et il a vraiment fallu que je fasse un gros travail. Gérer le poids, régime, donc gérer le poids, et deux, après tout un travail technique et tactique, et effectivement j'ai affûté aussi ma base technique.
Mais tu arrives à faire tout ça à cette époque parce que tu as un mantra. C'est plus jamais comme Pékin.
Exactement.
Et ça te motive ?
Ah, ça me surmotive.
Il y a quelqu'un qui est vraiment admiratif de ça. Grand judoka français. David Douillet, il se souvient justement de cette transformation.
C'est deux univers différents, c'est deux rythmes différents, c'est deux niveaux de puissance différents, c'est deux judo différents, c'est deux mondes différents. Enfin, c'est un vrai pari, quoi. Là, c'est faut être costaud, quoi, costaud dans sa tête. Bon, moi, c'est un signe d'un courage immense. C'est un véritable exploit.
Tu le dirais comme ça aussi ? Ça a été un exploit de pouvoir être une championne dans deux catégories différentes ?
Sincèrement, je pense que oui. Ça m'a demandé tellement de travail. Enfin, vous pouvez pas savoir à quel point de travail, de concentration, tout était millimétré, cadré. Je me souviens où j'allais à des rendez-vous professionnels ou quand j'allais à la fac avec mon déjeuner, tout était pesé au niveau de la nourriture. Et tout le travail qu'on a fait, que ce soit avec les entraîneurs nationaux, avec Christian Chaumont à l'époque à Levallois, tout le travail technique, il a fallu que je change des choses, que j'apprenne à croiser. Alors, croiser, c'est une technique en judo. J'ai jamais croisé de ma vie, là, en 63 kilos, j'ai appris à le faire. Voilà, il y a des choses comme ça, et c'est venu s'incorporer au judo que j'avais déjà à la base, et ça a étoffé ma technique. J'étais plus forte aussi, je suis devenue plus forte mentalement.
Juste, Gévrise, quand on parle, le papier, c'est régime, régime, régime. Pour tous ceux qui nous écoutent et qui ont envie de perdre comme ça, pas forcément envie de changer de catégorie de poids pour faire du judo, mais tous ceux qui ont envie de perdre 6, 7, 8 kilos, on fait quoi ?
1. Se rapprocher d'un professionnel. Okay. Ça, c'est très important. 2. Suivre le programme qui vous est donné. Et 3, continuez quand même à vous faire plaisir.
Ok, et c'est quoi souvent un programme qui nous est donné,
En fonction de qui vous êtes, c'est-à-dire après il y a des calculs qui sont faits sur votre masse corporelle, le volume, la masse d'eau que vous avez dans le corps, etc., etc. Eh bien, on va vous proposer d'avoir un régime alimentaire plus ou moins strict. Bon, le mien il était quand même assez strict, mais j'ai quand même gardé ma tonicité et mon muscle, donc c'était aussi l'objectif en ce qui me concerne. Donc en gros, manger 100 grammes de viande, 200 grammes de pâtes et un fruit et être en capacité après derrière de pouvoir m'entraîner parce que comme c'était des entraînements bicotidiens, donc il fallait quand même que je garde assez d'énergie après l'entraînement du matin, manger et garder assez d'énergie pour l'entraînement du soir et en ayant une alimentation pas trop riche en gras et tout ça. Donc,
ouais. Bah, je vais rester dans ma catégorie, moi. un nouveau papier dans la boîte à souvenirs avec Gévrise Eman.
Gévrise, fais ce que tu peux.
Gévrise, fais ce que tu peux. Qui te dit ça ?
Bah, ça, c'est pas moi.
Non. Ah bah non. Si on s'adresse à toi, c'est pas toi.
Ça, c'est pas moi qui me dit ça. Je sais pas du tout. Gévrise, fais ce que tu peux.
Ça m'étonne que tu t'en souviennes pas.
Est-ce que c'était... Bah,
ça t'a marqué, hein. Et ça t'a fâché, même.
Ah oui, c'est bon, je me souviens. C'est Fabien Canu.
On est en 2005. Gévrise, tu es toute jeune. Je le disais, en 2003, tu deviens championne de France. Tu n'es pas mondialement connue. Tu es encore la petite Gévrise. Tu as 23 ans et vous êtes, avant de venir à cette histoire, Gévrise, fais ce que tu peux, vous êtes trois Françaises en 2005 dans la catégorie des moins de 70 kilos. Il y a les championnats du monde au Caire en Égypte qui arrivent. Déjà, comment font les sélectionneurs pour vous départager ?
Alors, pour nous départager, les sélectionneurs, il restait un dernier tournoi et les sélectionneurs nous envoient en Allemagne, si je me souviens bien, oui, ils nous envoient en Allemagne sur le dernier tournoi. Donc, c'était Amina Abdelatif, Marie Pasquet et moi, pour nous départager. Et le deal, c'était celle qui faisait le meilleur résultat, aller au championnat du monde.
Aller au championnat du monde, et je crois que tu feras le meilleur résultat. Tu termineras combien ?
Oui, je fais le meilleur résultat. Je crois que je finis troisième.
Tu finis troisième. Tu es donc sélectionné dans cette catégorie des moins de 70 kilos pour faire, pour la première fois, des championnats du monde. Donc là, il y a la prépa, il y a Fabien Canu, le DTN, qui arrive, il fait son petit briefing, vous êtes à table. Et là, il se passe quoi ?
Et là, en fait, il passe un peu en revue tout l'effectif pour motiver les troupes. En tout cas, c'était ça l'objectif. Et arrivé à mon tour, eh bien, c'est Gévrise, fais ce que tu peux.
T'as pas aimé, Gévrise, c'est ce que tu peux.
Non, j'ai pas aimé parce que je me suis dit, attends, Gévrise, c'est ce que tu peux, ça veut dire quoi ça ? Il devrait justement un peu plus me motiver, me dire que. En tout cas, pas dans ces termes-là. Et c'est vrai que je l'ai mal pris. J'étais là, je venais d'arriver en équipe de France, j'étais la toute jeune, la moins expérimentée. Et je me suis dit que j'avais quand même besoin d'être un peu plus soutenue. que les autres. Et quand Fabien m'a sorti cette phrase, c'est vrai que j'étais atterré.
Pourquoi a-t-il sorti cette phrase, Fabien Canu ? Et puis après, tu pourras nous donner ta version aussi. On écoute Fabien Canu.
J'avais réfléchi pour lui dire clairement, écoute, Gévrise, sois tranquille, fais ce que tu peux. Mais dans mon tableau de marche des médailles, voilà, tu n'es pas dedans. Si tu fais médaille, ce sera du bonus. De manière à ce qu'elle se libère de cette pression. Et je lui dis, si elle le prend mal, elle sera vexée. Et de toute façon, elle voudra prouver qu'elle est capable d'eux. Donc, voilà, ça a été fait sciemment. Si elle fait la finale et sa première médaille mondiale, je ne dis pas que c'est à cause de ça. Mais c'était... il fallait qu'il y ait un déclic.
Il réécrit l'histoire ou pas ? Ou non, tu penses qu'il l'a fait vraiment sciemment ?
Non, je pense qu'il l'a fait sciemment. Après, maintenant, on en a discuté après. On en a discuté et à plusieurs reprises et longuement avec Fabien. Parce que je lui ai dit, mais quand même, Fabien, tu t'en rends compte, j'avais 23 ans, tu me sors ça ? Il me dit, ça a fonctionné, non ? Je lui ai dit, ouais, mais là, t'abuses. Donc, oui, je pense qu'il l'a fait sciemment, qu'il avait peut-être une intention derrière. Mais en tout cas, de mon point de vue, à ce moment-là... Un, je ne l'ai pas compris, et de deux, je trouvais que c'était assez violent.
Voilà. Ça a fonctionné, pourquoi ? Tu as fait combien à ces premiers championnats du monde en 2005 ?
J'ai fait deuxième.
Médaille d'argent, madame, bravo Gévrise Zeman. Et c'est vrai que cette médaille n'était absolument pas attendue. Médaille d'argent, et deux ans plus tard d'ailleurs, tu deviendras championne du monde. Un autre papier dans la boîte à souvenirs avec Gévrise Zeman.
Le 31 juillet 2012.
31 juillet 2012, quelle est cette date ?
Le 31 juillet 2012, eh bien, c'est la date de ma médaille de bronze aux Jeux Olympiques.
En plus, c'est facile de s'en souvenir, pas uniquement parce que c'est une médaille de bronze, parce que c'est la pire journée de compétition de ta carrière, on peut le dire.
Aussi. Aïe, aïe, aïe.
Alors, tu arrives à ces Jeux détendus. On vous a conté l'histoire, chers auditeurs, de Gévrise Zeman lors de ses premiers Jeux Olympiques en 2008 à Pékin. Où tu n'avais pas verbalisé la veille de la compétition ce que tu avais sur le cœur. Il fallait dire, donc tu as entrepris, on l'a bien compris, un énorme travail sur toi, tu as changé de catégorie de poids, tu as fait un travail aussi psychologique pour verbaliser, pour dire avant une grande échéance comme ça ce qui te traversait l'esprit. Tout va bien. Le jour J, l'échauffement se passe bien. Gévrise est en forme. On est le 31 juillet 2012. Tout va bien. Et puis là... Tu vas aux toilettes.
Et puis là, c'est le drame. Voilà, je vais me rafraîchir un petit peu. Et lorsque je me relève du lavabo, après m'avoir mis un peu d'eau partout sur le visage, donc je suis face à moi-même dans le miroir. Et là, je me mets à pleurer. Et le spectre de Pékin retombe, tu sais. Et là, je me dis, mais c'est pas possible. J'attrape le lavabo comme ça. Je me dis, mais c'est pas possible. Pas aujourd'hui. C'est pas le moment. T'es là pour faire ta compétition, pour remporter la compète. Et là, je me dis, non, ça va pas le faire. Ça va pas le faire.
Qu'est-ce qui se passe justement quand tu sors de ces toilettes ?
Et bah, du coup, je vois, il y a Martine Dupont qui était mon entraîneur à ce moment-là. Déjà, lorsqu'elle me voit, elle comprend direct. Et donc, je fonce vers elle. Je lui dis, Martine, ça ne va pas.
Là, tu verbalises.
Ah non, mais là, je verbalise direct. J'ai même pas cherché à comprendre. À tergiverser, j'ai pas commencé à dire bon, Gévrise, fais trois tours dehors et tu reviens. Non, là, il n'y a pas eu ça. Là. Direct, j'ai dit à Martine, j'ai verbalisé, Martine, je ne vais pas bien, j'ai peur, ça va pas bien se passer, je serai pas, voilà, bon. Et après, c'est débrouillé avec.
La boîte à souvenirs avec Gévrise Zeman, c'est terminé, mais pas encore totalement cette émission, car dans quelques instants sur RMC, nous allons sortir de la boîte.
RMC, la boîte à souvenirs. RMC, la boîte à souvenirs.
La sortie de boîte.
De retour sur RMC, la boîte à souvenirs de Gévrise Zeman, notre judoka, triple championne du monde, quintuple championne d'Europe, médaillée de bronze aux Jeux Olympiques de Londres. Ce n'est pas encore terminé, ton travail, Gévrise Zeman. Maintenant, tu vas devoir répondre aux questions de quelques proches. Oui, certains proches ont désiré te parler, avec des choses à te dire. On débute avec Martine Dupont, ton entraîneur en 2012, lors de cette médaille de bronze à Londres.
Bonjour Gévrise, c'est Martine. Écoute, j'ai une petite question à te poser en lien avec les Jeux Olympiques de Londres. Je voulais savoir si tu te souviens de ce que je t'ai demandé d'enlever de tes pieds.
Tu t'en souviens pas ?
Ah non, pas du
Qu'est-ce
tout.
Qu'est-ce que t'as demandé d'enlever de tes pieds ?
Ah.
Surtout après les premiers combats.
Les pierres ou le boulet que je traînais.
Les plâtres.
Ouais, c'est ça, d'enlever les plâtres, c'est ça.
Sinon, tu n'y arriveras jamais.
Exactement, exactement. C'est ça.
Allez, autre question. Autre entraîneur, c'est Cathy Fleury. En 2008 à Pékin, en 2016 aussi, je crois, aux Jeux Olympiques de Rio.
Cathy Fleury. Salut, c'est Cathy. Écoute, j'avais une question à te poser. Est-ce que ta retraite sportive, hein, celle qu'on appelle la petite mort, a été une étape difficile pour toi à traverser?
Très bonne question, Cathy. Alors, difficile, non. Je ne considère pas que ma retraite sportive a été difficile. J'ai plutôt pris le temps, justement, de la préparer. En tout cas, je l'avais déjà préparée en amont. Mais j'ai pris vraiment le temps de me poser pendant l'année qui a suivi les Jeux. Donc, je ne dirais pas que ça a été difficile. Pas évident, mais pas difficile.
Un message maintenant de Fabien Cahenu, l'ancien DTN du judo.
Salut Gébrise, eh bien, écoute, c'est Fabien Canu, et puis une question qui me taraude, s'il n'y avait pas eu le judo, s'il n'y avait pas eu ta carrière de sportif de haut niveau avec ce tel palmarès, qu'est-ce qu'aurait fait Gébrise Eman? Tu serais devenu quoi?
Qu'est-ce que j'aurais fait? Bonne question. J'aurais été sûrement une grande avocate en droit international.
Comme le voulaient tes parents.
Comme le voulaient mes parents.
J'ai bien compris. Allez, autre question, Lucie d'Écosse.
Bon, salut Jeb, c'est Lucie. On a voulu que je balance des dossiers sur toi, donc tu vois, je ne l'ai pas fait. Je suis sympa. Mais ma question, c'est à quand le prochain dossier? Ça veut dire que quand est-ce qu'on se voit et que je puisse nourrir encore deux, trois petits dossiers sur toi? Allez, bisous.
Quand j'ai préparé cette émission, tout le monde m'a dit « Non mais Gébrise, elle est hyper sérieuse et tout ça, mais tu as quand même ce rire qui est très communicatif. » Qui illumine ton visage, t'es forcément un peu belliqueuse, comme le disait ton papa.
Oui, je suis un peu belliqueuse, comme le disait papa, tout à fait. Ouais.
Il y a des dossiers ou pas sur Gébrise Eman?
Aucun.
Aucun? Okay. Sur Lucie d'Écosse, on peut peut-être en donner, non?
Non, plus.
Non?
Non, plus.
Oh là. Et donc, cette solidarité des judokas, là, on ne saura rien. Donc,
et on se voit bientôt avec Lulu, on se voit bientôt.
Ok. Un message de ta maman maintenant. D'après toi, d'ailleurs, ta maman, elle te définirait comment? S'il y avait un mot.
Oh là là, il y avait un mot. Franchement, je vous dis la vérité, je ne sais pas. J'ai envie de dire courageuse, mais je ne sais pas si elle me définirait comme ça.
Ça se ressemble.
Ma fille, c'est une femme battante. Qu'elle continue comme elle est, qu'elle ne change pas. C'est une battante.
Ça résume bien, Gébrise Eman?
Ça résume bien, oui. Ça résume bien.
Allez, une question maintenant de David Douillet.
Gébrise, tu as un des plus beaux sourires que je connaisse dans le monde du sport et puis dans la vie tout court. Je t'ai jamais vu faire la gueule, sauf après un match qui s'était pas bien passé, ça peut arriver. Mais globalement, t'es quelqu'un de joyeux. Je t'ai jamais vu malheureuse. Est-ce que ça t'arrive, ma Gébrise? Dis-moi.
Oui, ça m'arrive d'être malheureuse, d'être triste, comme tout le monde. Après, je le montre pas forcément.
Ouais. Tu caches encore des choses. D'ailleurs, c'est une bonne question sur ce travail psychologique que tu as dû faire pour ta carrière de sportive. Est-ce que tu l'appliques encore aujourd'hui, même dans ta vie, à verbaliser, à dire les choses?
Oui, tout à fait.
Et ça marche?
Et ça fonctionne. Et ça fonctionne, ouais. Ça fonctionne bien même.
Allez, pour terminer, un dernier message de ta petite sœur, Marie-Josée, qui t'a suivie dans de nombreuses compétitions.
Bravo. Bravo parce qu'elle a réussi dans un domaine qui n'était pas facile. Un, pour elle, parce qu'elle ne connaissait pas ce sport avant. Bravo parce qu'elle s'est battue pour obtenir ce qu'elle souhaitait dans ce sport-là. Elle s'est battue contre ses parents, clairement. Hein. Elle s'est battue contre ce sport et les rudesses de ce sport, notamment cette discipline qui, en termes de poids, en termes de catégorie de poids, en termes d'âge, en termes d'effort physique, elle s'est battue contre tout ça et elle a réussi. Bravo parce que c'est un modèle et bravo parce que c'est ma grande sœur et j'en suis fière.
C'est sympa.
C'est super sympa. Super sympa.
C'est vrai que quand on part comme ça à travers le monde, c'est difficile de garder le lien avec les frères et sœurs. Et t'as réussi. Alors, eux sont venus, c'est vrai, te voir pour justement pouvoir garder ce lien. Mais on sent qu'il est. Il ne s'est pas distendu, ce lien.
Non, il ne s'est pas distendu. Et c'est aussi, j'allais dire, la manière dont nos parents nous ont éduqués. Et c'est ce qu'on vit encore aujourd'hui. Et c'est ce qui permet, voilà, qu'on soit une famille.
Elle nous a dit j'ai gardé ce lien parce que c'est Gévrise. Ça veut dire quoi?
Je sais pas, faudra lui demander.
Mais moi, c'est à toi que je pose la question.
Non, je sais pas. C'est peut-être parce que je suis quand même quelqu'un de généreux et que j'aime partager et que j'ai envie d'embarquer tout le monde et que tout le monde. Fabien disait tout à l'heure. Non, c'est David qui disait tout à l'heure qu'il m'a jamais vu triste parce qu'effectivement, je souhaiterais qu'autour de moi, que tout un chacun trouve son bonheur. Voilà. Et c'est mieux d'avoir le sourire que d'être malheureux, je trouve.
Merci beaucoup, Gévrise. Merci infiniment pour cette boîte à souvenirs. Un grand merci à toute l'équipe qui a travaillé sur cette émission. Pierre Amiche, notre journaliste Arthur Perrault et notre réalisateur Daniel Torres. Gévrise, tu as débuté cette émission. Tu vas pouvoir la terminer. Face aux auditeurs, c'est à toi. Un petit mot pour eux.
Mais déjà, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Vous connaissez une partie de ma vie, je me suis dévoilée. C'était pas évident, mais c'était très bienveillant.
RMC, la boîte à souvenirs.